Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
La Radio de Lévis. Talk rock hip-hop. L'alternative radio.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
La zone insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes.
Bon samedi à tous, auditeurs fervents de la zone insolite. Ici Jenny, co-animatrice d'Enquête de terrain. Avec moi, il y a Gilles. Comment vas-tu, Gilles?
Bonjour les auditrices et auditeurs d'Enquête de terrain. Bonjour Jenny, j'espère que tu vas bien.
Je vais bien, merci. Aujourd'hui, nous recevons deux invités.
Exact. Il y a Gilles Durand, secrétaire général de l'association SO, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, et Rémi Fauchereau, président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens, membre du SO et reporter ODH TV du département de Lyon.
Les émissions passent toujours vite, alors je vous laisse commencer.
Commençons ce début d'émission avec Gilles Durand. Bonjour à toi.
Bonjour Gilles.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, oui.
Je te remercie d'intervenir une fois de plus dans l'émission Enquête de terrain.
C'est avec plaisir, toujours, hein. Il n'y a pas de problème.
On va aborder un autre terrain ensemble, qu'on oublie parfois. Après avoir vu les enquêtes, les veillées, les archives, nous allons à présent parler de l'UFOPOP, ou l'ufologie populaire de terrain. Alors Gilles, qu'est-ce que l'UFOPOP?
L'UFOPOP, c'est effectivement une partie, je dirais, émergée de l'ufologie, entre parenthèses. C'est-à-dire, on va dire clairement, ce sont les produits dérivés. Et sous toutes leurs formes. Ça peut être artistique, ça peut être ludique, ça peut être donc des jouets, ça peut être plein de choses. C'est dans la publicité, c'est donc dans l'art, c'est dans les jouets. Ça touche à tous les domaines, en fait. Mmh. En fait, donc c'est un produit dérivé, mais en fait, c'est l'utilisation du thème et du terme, parce qu'il n'y a pas que l'utilisation du thème, il y a uniquement l'utilisation du terme. Je vais dire, par exemple, on dit un ovni politique, un ovni du sport, tu vois. Alors qu'en fait, ça veut dire quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de rare, quelqu'un qu'on n'avait jamais vu avant, voilà. Et puis, bon, je dis du sport, mais de un ovni de la peinture, un ovni de la danse, etc. Donc, tous les thèmes de la société, le terme ovni est devenu un qualificatif pour les gens qui sont exceptionnels, entre guillemets.
Ouais, je dirais même que le terme extraterrestre aussi, parce que dernièrement, dans le cadre d'une autre chaîne YouTube, j'ai employé le mot extraterrestre à une dame, dans le sens que, bon, cela, ça n'a rien à voir, mais dans le sens que dans les années 90-2000, écouter de la K-pop en France, on était considérés comme des extraterrestres.
Voilà, voilà. Mais pareil, toi, quand, je sais pas, Usain Bolt a battu le record du monde du 100 mètres, on a dit, c'est un extraterrestre. Voilà. Mais on a dit aussi pour d'autres champions, hein, dans le cadre du sport. On parle plutôt d'OVNI autrement, mais dans le sport, on parle d'extraterrestre. Parce que les gens font des performances auxquelles on ne croyait pas, quoi.
Peut-être que les auditrices et auditeurs se demandent, mais qu'est-ce que le terrain a à voir avec l'UFOPOP? Bah, c'est tout simple, lorsque vous allez photographier un graffiti ou du street art où il y a une soucoupe volante ou un extraterrestre, vous allez dehors, donc vous êtes sur le terrain. Quand vous allez dans les magasins aussi, je pense d'ailleurs à un t-shirt que j'avais vu en Espagne où il y avait, ils avaient repris le I want to believe, mais au lieu de mettre I want to believe, ils avaient marqué I want to sleep, donc je veux dormir avec une soucoupe volante et un lit. Voilà, il y a, quand vous allez, je sais pas, vous tombez sur des figurines d'extraterrestres ou autres, vous êtes dehors, vous chinez dans un magasin, vous êtes sur le terrain. Voilà. Et en fait, on peut même retrouver des bonbons, des gâteaux en rapport avec l'ufologie.
Le domaine de la nourriture, bah, oui, on a vu ça aussi. Mais c'est vrai que quand tu parles des vêtements où on a floqué des soucoupes volantes, il y en a des milliers. Il y en a des milliers, et depuis les années 50. Il y a des sur internet, il y avait sur eBay USA. Alors, je sais pas si c'était des facsimilés, si tu veux, des reprises de trucs des années 50, mais en fait, ils mettaient donc c'était pour les enfants en plus. Hein, c'était des un peu des turbulettes, tu vois, des trucs d'une seule pièce là, hop, que tu enfiles pour les gamins pour aller dormir. Et c'était donc vintage, mais je ne savais pas si c'était les vrais des années 50, dont ils avaient retrouvé un stock et que les mythes n'avaient pas mangé, ou alors si c'était vraiment des facsimilés d'après les originaux. Il suffit que tu retrouves le patron, et puis voilà, tu peux le faire. Mais il y a plein de choses, il y a de tout. Au niveau donc tissu, je dirais, tu as des vêtements, tu as des draps, tu as des rideaux, tu as des nappes, tu as toutes sortes de choses. Mais on l'a même vu apparaître le thème dans la haute couture, tu vois, entre autres. Dans les années 50, il y avait des chapeaux sous coupe volante. Dans les années 50, il y avait des soutiens-gorge sous coupe volante. Voilà. En fait, c'était la forme des bonnets qui disait, bon, bah, c'est. L'inventeur de ça, il a appelé donc ses soutiens-gorge sous coupe volante. Mais je dis, les chapeaux, il y en a. J'ai toute une collection de chapeaux des années 50, je sais pas quelle année exactement, où le designer avait appelé ça sous coupe volante. Mais c'est depuis le début, hein, depuis les années 40, voilà, on a accordé à certaines formes. Le terme, on a posé dessus le terme soucoupe volante. Voilà. Flying saucer aussi, de temps en temps. Mais c'est vraiment du faux pop. Voilà. C'est intégrer un thème controversé, par ailleurs, comme étant quelque chose de commun, de routinier, dans le cadre de la société humaine. Quoi. On intègre ça avant de savoir ce que sont les soucoupes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, comme si c'était quelque chose d'acquis.
On en revient un peu à la grande question. Est-ce que c'est pas lié à la science-fiction, tout ça?
Le problème, c'est. C'est bizarre, parce que je vois pas trop de. Alors bon, je ne connais pas tout non plus, attention, hein, je n'ai pas une science universelle là-dessus. Peut-être qu'il faudrait chercher, effectivement. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de. Thème de science-fiction qui soit récupéré de cette façon-là dans la société à quelques niveaux que ce soit avant 47 quoi. peut-être des habits un peu moulants, peut-être, faudrait voir. Mais j'en suis même pas sûr. J'en suis même pas sûr. J'ai jamais vu personne s'habiller à la Bud Rogers, à Buck Rogers, dans les années 40, quoi. Je sais pas. Mais on peut dire que, alors bon, il y a peut-être une déformation de notre part. Hein. On est plus attiré à voir, oh, une soucoupe volante sur les t-shirts. Enfin, t-shirts, ça date des années 70, vraiment, même si ça existait avant. Mais les t-shirts floqués, ça date plutôt des années 70, 60-70, quoi. Et voilà, donc après, il y a d'autres, à d'autres niveaux, je veux dire, bon, tu parlais des graphes, il y en a partout. Depuis que les graphes existent, il y a des soucoupes volantes partout sur les murs. Hein, on en trouve, alors bien sûr, il y a Alien, Invaders. Invaders, il y en a partout. Bah, et c'est très bizarre parce qu'il y a un Invaders énorme, c'est le plus gros que j'ai jamais vu, à deux pas du siège du Sceau. Sur un pignon de rue, là, entre la rue Aubert et l'avenue de la République. Le pignon, il est coupé, ce qu'on appelle un pignon coupé. Et donc, comme ça fait un espace rectangulaire où on peut mettre des choses dessus, il y a un énorme Invaders avec une main.
Voilà. Il y en a un petit peu plus loin à Vincennes aussi.
Oui, oui, mais tu vas à Paris, il y en a partout. Il faut, d'ailleurs, tu sais qu'il y a un site pour stocker les photos d'Invaders. Parce que le gars, il a fait ça partout dans le monde. C'est un Français. Hein. Il a fait ça partout dans le monde. Il est connu partout. Hein. C'est comme d'autres, comme Banksy ou d'autres. Il est aussi connu qu'eux, comme Ben, par exemple. Ou d'autres.
À Perpignan, il y en a quelques-uns. Il y en a un gros aussi. Il est aux couleurs du drapeau catalan.
En fait, il faut tous les prendre en photo parce que ça fait un... Moi, j'en ai plein. Hein. Il y a des déclinaisons. Par exemple, rue Maison-Dieu, j'avais fait des photos, je te l'avais envoyé d'ailleurs. En fait, c'est la plaque de rue qui fait office de soucoupe volante, et il y a un faisceau, et il y a un alien dans le faisceau. Voilà. Ben, il y en a plein comme ça, il est très imaginatif, ce garçon. Voilà, donc ça, puis après, bon, il y a tous les graphes, hein, ceux on parlait tout à l'heure de la table d'orientation dans Lyon, où en fait, Rémi s'en est rendu compte, parce qu'il y a eu un article sur les randonneurs, sur des randonneurs dans Lyon, qui étaient à la table d'orientation, et qu'est-ce qu'on voit en arrière-plan de sur la table d'orientation? Des aliens. Donc Rémi est allé sur place, il a fait les photos qu'il nous a envoyées.
Et d'ailleurs, il y a des émissions d'ODH TV qui ont été enregistrées à côté de ce graffiti, donc à côté de la table d'orientation. Mais j'aimerais qu'on fasse intervenir Rémi Fauchereau. Bonjour Rémi, comment vas-tu?
Bonjour Gilles, bonjour Audegine, et bien ça va très bien.
On vient à peine d'aborder avec Gilles Durand le graffiti de la table d'orientation. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ben oui, c'était donc la table d'orientation. Elle est surmontée sur une, elle est sur une butte, et puis le long de la butte, pour que la butte ne s'affaisse pas sur le chemin, ils ont mis un mur en béton. J'ai vu tout simplement qu'ils avaient fait un dessin d'une soucoupe volante avec des martiens. Il y a les martiens qui font le signe du V et de la victoire, de chaque côté, et de la soucoupe. La soucoupe est bien située au milieu. Voilà, avec donc un faisceau rayon tracteur un peu qui se dirige vers le sol. Je sais plus dans quel état elle est maintenant, mais nous, quand on avait été la voir, ça fait déjà un petit moment. Et ben, elle était encore en bon état, hein. La fresque était en bon état.
L'endroit de la fresque, pour toi Rémi, est particulier, puisque c'est là où a été réalisé des veillées de ton association, l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens. C'est bizarre quand même.
Oui, c'est ça, c'est parce qu'on avait fait des veillées à l'AEPA, et donc peut-être que le gars a vu ça sur YouTube, et qu'il est venu, ça lui a mis la puce à l'oreille pour venir faire une fresque sur les soucoupes volantes et les martiens. Je me demande si c'est pas ça finalement qui a déclenché la fresque. C'est le fait qu'on fasse des veillées à cet endroit-là.
De toute façon, il y a d'autres endroits en France, même dans le monde, à caractère ufologique, où il y a ce type de clin d'œil. Ça me fait penser qu'il y a quelques années en arrière, j'avais photographié au Col de Vence, un secteur bien connu, dans les veillées à caractère ufologique, donc dans le sud de la France, dans le département des Alpes-Maritimes, une fresque, là c'était plutôt une fresque qu'un graffiti, où il y avait l'acronyme UFO, hein, marqué un petit peu partout, avec des soucoupes volantes, des cigares volants, des martiens aussi. Mais de l'autre côté de la benne, la fresque était plutôt à caractère spirituel ou paranormal.
Bien sûr, je l'ai pris en photo et j'ai même réalisé quelques émissions à côté de cette fresque.
Mais bon, t'as des graffeurs qui font ça. Il y a celui que t'as découvert là, qui a un site là, qui fait des ovnis, il se coupe partout à travers le monde. Là.
OVNI One.
OVNI One, voilà. Voilà. Donc c'est. Alors en plus, tu vois, c'est vraiment dans le move. Je vais dire, hein, dire ça comme ça. Et qu'en fait, ça touche aussi des formes d'art, des street art, quoi. Mmh. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les graffeurs se sont saisis du thème très rapidement. Kessa Ring, donc qui est très connu, hein, qui est un artiste street artiste des années 80 et qui malheureusement s'est donné la mort dans les années 90. Kessa Ring, en fait, lui, je ne sais pas si tu connais Kessa Ring, mais en fait, ses tableaux, ses œuvres qu'il a fait d'abord sur des murs et ensuite vraiment dans des galeries, hein, il a vraiment peint. C'est une compression, si tu veux, plein de personnages de toutes sortes, des petits bonhommes, toi vraiment très stylisés, ils n'ont pas de mains, pas de pieds, ils ont des jambes, des bras, une tête, et puis des loups, je sais, il y a ça, et des soucoupes volantes, voilà, et puis d'autres choses, mais ça, bon, les soucoupes volantes, Kessa Ring, c'est vraiment un des papes du street art. Des années 80, quoi.
Comme dit en début d'émission, lorsque vous allez photographier ou filmer des graffitis ou du street art à caractère ufologique, c'est de l'ufopop de terrain. Et je voulais rajouter quelque chose, c'est que le compte Instagram d'ODH TV est vraiment tourné à 100% maintenant sur l'ufopop. Et on peut trouver des graffitis un peu partout, n'est-ce pas? Je t'ai montré une image dernièrement, Gilles, où en regardant une série TV qui est très connue, Stranger Things, dans la saison 2, épisode 7, à un moment donné, sur un conteneur, on voit une soucoupe volante avec un petit alien et un faisceau tracteur.
Oui, mais ce qui est marrant, ce que j'ai fait remarquer, c'est qu'il ressemble au martien de la table d'orientation.
Exact.
C'est assez rigolo, hein.
Tu en as eu aussi à côté de chez toi, l'alien DJ.
Oui. Bah alors là, on est dans quelque chose d'un peu différent. Enfin, un peu différent. C'est du street art. C'est-à-dire, en fait, la SNCF a autorisé un groupe de graffeurs qui s'appelle ARM, ARM. Alors ARM comme le bras en anglais, ARM parce que les bombes de peinture c'est leur arme entre guillemets, et ARM c'est l'acronyme de astronaute en randonnée martienne. Voilà, déjà, hein, on est dans le thème. Et effectivement, la SNCF les a autorisés, donc la Société Nationale des Chemins de Fer Français, pour nos amis québécois. La SNCF les a autorisés à venir graffer sur les piliers de la passerelle. Donc, il y a un alien, avec des verts, bien verts d'ailleurs. Tu l'as pris en photo d'ailleurs.
Exact.
Et en fait, il y a un TGV dans l'espace. Il y a un DJ assis sur une platine, mais qui vole. En fait, la platine est volante, donc une soucoupe, hein, en fait, si on veut aller par là. Voilà, donc c'est. Et puis, il y en a un quatrième, je ne sais plus ce que c'est.
C'est un cosmonaute, non ?
Oui, c'est ça, oui, t'as raison, c'est ça. Et voilà, donc, il y a deux piliers, en fait, à la passerelle. Donc, sur les chaque face du pilier, il y a un graphe. Mm-hmm. Oui, mais c'est vrai que des graphes aliens, t'en trouves. Alors, il y en a un qui est archi connu, qui est sur Internet, on le trouve partout. C'est un gamin qui regarde une soucoupe, il y a un faisceau lumineux en dessous. Et en fait, le faisceau lumineux, c'est un peu comme ce que cherchent certains archéologues non officiels, c'est-à-dire, par exemple, quand le soleil est à 14 heures à tel endroit, ça envoie un rayon sur un truc et là, c'est là que se trouve le trésor. C'est un peu ça. Donc en fait, la soucoupe a été dessinée à un endroit où, à une heure donnée, le soleil projette ses rayons sur le mur et ça fait un triangle comme un faisceau sous la soucoupe. Mais c'est, je dirais que c'est éphémère, mais ça recommence tous les jours, plus ou moins. Tu vois, c'est assez rigolo, ça.
Et puis toi qui as fait de l'urbex, t'en as vu des graffitis avec des soucoupes volantes et des martiens?
En urbex, j'en ai photographié pas mal, surtout dans le manoir des Sept Colonnes, qui est malheureusement un superbe manoir style anglais, construit au début du XXe siècle, qui est en ruine totale. Il y a un très très beau graphe avec un type avec un coupe-coupe et son chapeau, c'est une soucoupe volante avec un martien à l'intérieur. En fait, le martien est dans son cerveau, quoi. Et dans le même urbex, il y a un martien. Il dit ouais, j'en ai ras-le-bol, je retourne sur ma planète parce que franchement sur Terre c'est le bordel, quoi. Un peu ça, quoi. Et dans un autre lieu qui a disparu maintenant, qui a été entièrement rasé, c'était un ancien abattoir. Il subsistait. Une partie d'un graphe avec des soucoupes volantes, mais comme il avait été recouvert partiellement, je ne sais pas ce qu'il y avait dessous, je ne sais pas quel était le graphe originel, dont la scène donnait à voir des soucoupes. Je ne sais pas, malheureusement, parce que c'est dommage, parce que les soucoupes avaient l'air sympas, avec une vache en plus, qui était abductée. Et il y avait à Villeneuve-Saint-Georges un lieu qui n'existe plus, qui était en fait une enceinte de plaques en béton, tu vois, qui devait entourer, je sais pas, une entreprise à un moment donné qui avait disparu, qui avait été rasée, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que l'enceinte. Et la mairie de Villeneuve-Saint-Georges à l'époque, je vais faire un peu de politique, qui était une mairie de gauche, voilà, on va dire ça, a dit bah, plutôt que d'abattre cette enceinte, on va la donner aux graffeurs. Et les mecs ont commencé à s'éclater sur ce... Parce qu'il y avait quand même, je ne sais pas, des dizaines de mètres linéaires à graffer, quoi. Et ça a commencé, et là, j'y suis allé, j'ai fait des photos, mais des photos argentiques. Maintenant, il faudrait que je retrouve mes boîtes de diapos et que je les transpose en numérique. Comme ça, je pourrais t'en faire profiter. Mais j'ai trouvé, effectivement, des soucoupes, etc. Mais c'était dans les années 90, là. On était dans ces années-là. 1990, bien sûr. Parce que à la fin du 21e siècle, les gens ne comprendront pas. Si je dis années 90, ils diront c'est 2090. Non, c'est 1990. Je t'en avais envoyé aussi. J'en ai trouvé pas mal à Liège, hein, en Belgique. Où là, c'est pareil. Il y a entre autres des piliers qui ont été peints de façon officielle. C'est-à-dire que c'est du graphe officiel. C'est-à-dire qu'en fait, on donne l'autorisation au graffeur de peindre quelque chose. Et là, en fait, c'est un pilier, c'est un ensemble. Il y a la tour Kennedy, et puis il y a un ensemble culturel, et il y a une rue qui passe dessous. Donc, en fait, il y a une sorte de porte, si j'ose dire, ou de viaduc. Donc, en fait, au-dessus, c'est une bibliothèque, et en dessous, les voitures passent. Et les piliers qui soutiennent l'ensemble ont été peints par un artiste connu dont le nom m'échappe complètement, et il a fait entre autres plein de petites soucoupes dans le ciel, et je les avais envoyées d'ailleurs. Et sinon il y a trois murs peints à Liège, enfin non, il y a deux murs peints à Liège où il y a des soucoupes. Il y en a un sur un hall de sport, enfin un hall sportif, comme on dit, enfin on n'appelle pas ça comme ça en France, mais bon, les Belges appellent ça un hall de sport, et un autre sur un mur d'un hangar. Je ne sais pas trop, je ne vais pas aller voir de près, je l'ai vu juste depuis la rue, et je l'ai pris en photo, avec une belle soucoupe, et puis il y a d'autres personnages. Ça fait un peu apocalyptique, je trouve. Voilà, et puis il y avait aussi un petit édifice technique, une petite maisonnette technique dans laquelle il va y avoir un transformateur, un truc comme ça. Sur lequel il y avait des personnages d'une BD qui est bien connue, avec des personnages un peu hirsutes comme Marge dans Les Simpsons. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces personnages.
Alors, je ne sais pas si tu as ça par chez toi, mais dès qu'un bâtiment va être démoli et donc détruit, les mairies laissent les graffeurs et ceux qui font du street art embellir ce bâtiment. De mon côté, il y a le festival des billes qui s'agite. Et l'année dernière, par rapport au gymnase de Canoës, donc dans le département des Pyrénées-Orientales, ils ont réalisé un festival, il y avait de magnifiques fresques, etc. Et c'est dans ce genre d'événement qu'il est peut-être susceptible de voir, parfois, des soucoupes volantes en graphe ou en fresque.
On a eu ça à Paris, où il y avait un bâtiment qui a été démoli pour être remplacé par un autre bâtiment. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi ce bâtiment a été démoli, quel était le problème. Il devait certainement poser un problème, mais je ne me rappelle plus lequel. En fait, toujours est-il qu'il a été dédié aux graffeurs pendant 6 mois. Il y a même eu une exposition dedans, donc on pouvait accéder. Il fallait payer une entrée, hein, comme un musée, voilà, et on pouvait photographier tous les graphes. Il y avait des sculpteurs qui avaient mis leurs œuvres, etc., avant que tout soit rasé et remplacé par un autre bâtiment. Donc c'était juste du côté du pont de Bercy, c'est ça, je crois, en face du ministère du ministère des Finances, de l'autre côté de la Seine, tu vois, côté rive gauche.
C'est déjà l'heure de la première pause. Chers auditeurs, restez avec nous. On revient dans quelques minutes.
Financière du gouvernement du Québec.
Le bingo le plus fou du monde est de retour en 2024, plus payant que jamais. Présentez-vous directement à la station et profitez d'économies d'échelle lors d'achat de cartes. 12 cartes pour 100$ et 6 cartes pour 55$.
Le bingo le plus fou du monde.
Amusez-vous et gagnez.
Pour info, 418-903-7969.
CJMD, le 96.9 à Lévis.
Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
Nous voilà de retour pour la suite d'Enquête de terrain où nous abordons l'UFO-pop. Gilles, je te redonne la parole.
Concernant l'art, c'est-à-dire les peintures, cette fois sur toile et pas sur les murs comme nous avons vu en première partie d'émission, j'avais vu dans le Vieux-Nice, donc dans le département des Alpes-Maritimes, chez un artiste, une peinture où on voyait un peintre dessiner une soucoupe volante.
Mais il y a un peintre célèbre, dont le nom, bien sûr, m'échappe complètement parce que porte tenu le nom de tout le monde, qui a peint un tableau dans les années 30-40, par là, et qui a repris son tableau dans les années 70, peut-être, et qui a ajouté sur le tableau, il a reproduit une photo de soucoupe volante bien connue, où on voit un truc rouge, vert et jaune, ou bleu, je ne sais plus. C'est une photo qui a été prise aux États-Unis, mais c'est bien sûr, désolé de le dire, mais c'est un faux, hein, évidemment. Et lui, il a repris cette photo parce qu'elle est en couleur et il l'a incrustée dans son tableau, mais 20 ans ou 25 ans plus tard. D'ailleurs, ça a fait beaucoup bouger le monde ufologique parce qu'on s'est dit, voilà, mais c'est un tableau qui est daté, parce qu'en fait, il est toujours daté de sa date originelle, c'est-à-dire bien avant qu'on parle de soucoupe volante, bien avant 47. Donc, en fait, les gens se sont interrogés sur le pourquoi il y avait une soucoupe, et cette soucoupe qui ressemble à une photo. En fait, on a compris, c'est qu'il avait retouché son tableau après.
Pardon, excuse-moi de t'interrompre, j'avais une question assez curieuse à te poser. Est-ce que les faux ou les canulars en ufologie peuvent être considérés comme une forme d'art?
Pourquoi pas, oui. Oui, ça peut être considéré comme de l'art. Oui, pourquoi pas. C'est pas idiot, ça. J'avais pas pensé à ça. Ouais, pourquoi pas. On peut peut-être penser que c'est une forme d'art. Hein. Là, j'étais en train de relire un document qui parle des photos belges de Namur. C'est un article de Christian Piens où le photographe, qui est un photographe professionnel, n'est pas très clair. Parce qu'en fait, c'est la photo où on a l'impression que c'est un œuf sur le plat. Je sais pas si tu vois, avec un truc un petit peu blanc autour, un peu, et puis une sorte de grande traînée. En fait, c'est un œuf cassé sur le plat, mis dans une poêle. Et en fait, on laisse traîner le blanc de l'œuf un peu comme ça. Et quand ça cuit, bah, ça devient. Et la photo est en noir et blanc, bien sûr. Donc ça. Alors, il prétend des choses parce que c'est incrusté sur le ciel, si tu veux. Et en fait, l'état du ciel derrière ne correspond pas du tout à la météo du jour où il prétend avoir pris la photo. Tu vois ? Donc, voilà. Mais bon, c'est pas, le type n'est pas clair. Il ou voit, tu sais. Quand il dit, ouais, j'ai été voir quelqu'un, mais qui c'est cette quelqu'un ? Ah bah, je sais plus, j'ai oublié son nom. Donc, bien sûr, tu peux pas aller le voir parce que tu n'as pas le nom. C'est un truc comme ça. Je vais revenir à l'art pictural, donc à la peinture. Il y a un ufologue très connu dont le sceau a sauvegardé les archives récemment. C'est Gildas Bourdet. Alors, quand tu vas chez Gildas Bourdet, je n'avais jamais été chez Gildas Bourdet. On était chez Gildas pour récupérer ses archives. Donc, on est rentré dans son appartement. C'est impressionnant. Parce que, il ne fait pas que des soucoupes. Hein. Il a fait une très, très belle image qui s'appelle la soucoupe de l'Arizona, qui a été achetée là par un ufologue. Toujours est-il que quand tu arrives chez Gildas, il a deux pièces où il n'y a que des toiles. Que ça, qui sont entassées. Toi, il y a son chevalet et tout ça. Des toiles entassées, et c'est des toiles peintes. Ce n'est pas des toiles en devenir, c'est des toiles peintes. Alors, il y en a quelques-unes où il y a des choses qui seraient un peu ufologiques quand même, tu vois. C'est parce qu'en fait, c'est assez science-fiction quand même, ce qu'il peint. C'est semi-abstrait, je dirais. Je ne sais pas quel style, c'est quand même un style à part. C'est un en partie abstrait et en partie concret, enfin disons figuratif, mais quand même assez, je dirais, sans trop de détails. Tu vois. Et par contre, on a trouvé dans le paquet 5 toiles qu'il a fait sur bois, pas 5 toiles, 5 peintures qu'il a fait sur bois, et en fait, ce sont des soucoupes. Vraiment, c'est des cas ovnis qu'il a peints. On va lui acheter certainement à vil prix, hein, parce qu'il veut s'en débarrasser. Il dit, j'aurais dû les jeter. Non, tu les jettes pas. Non, ça fait partie du show-pop aussi. Mm-hmm. Hein. Voilà. Au niveau peinture, il y a des choses.
Pour rester dans l'art, niveau sculpture, Rémi, tu as une sculpture, il me semble, du côté de Saint-Aubin-Châteauneuf, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Peux-tu nous en parler, s'il te plaît ?
Oui, bah, c'est une sculpture de comment ? Je ne sais même plus son nom. C'est un sculpteur qui travaille de l'inox. Il travaille essentiellement de l'inox. Il a fait une sculpture, donc c'est une sorte de colonne un peu bizarroïde, un peu travaillée dans tous les sens. Et en haut de cette colonne, il y a une forme de soucoupe volante. Mm-hmm. Une forme de soucoupe volante qui est posée sur cette colonne. Et il l'a intitulé OVNI. Et avant, elle était placée sur la place de la en face de la mairie de Saint-Aubin-Châteauneuf. Et puis après, elle a été déplacée, elle était descendue du côté de l'église, vers l'église, derrière l'église, elle a été mise. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont déplacée.
C'est pour qu'on ne la voit pas ?
Je ne sais pas pourquoi elle a été déplacée et le mot OVNI a été enlevé.
Ah, d'accord. Ok. Tu l'avais pris en photo de toute façon ?
Ah oui, j'avais pris tous en photo, ouais. Mais même j'ai pris en photo donc avec Thierry Rocher aussi, on avait été la voir avec Thierry Rocher, quand elle était derrière l'église, et je l'ai pris en photo aussi quand elle était sur la place d'en face de la mairie, où il y avait le mot OVNI.
Et tu n'as jamais rencontré le sculpteur ?
Si, il est venu à mon émission.
Ah d'accord, tu lui as posé la question de savoir pourquoi il avait fait ça ?
Non, jamais, non. Il était venu à mon émission de France 3 Bourgogne, à Poilly-sur-Thelon, quand il était venu au pub de Bleury faire mon émission télévisée.
D'accord.
Il était là, il était présent. Non, oui, mais il est connu au niveau européen. Il est connu au niveau européen. Il fait des expositions en Allemagne et tout ça. Ouais, alors donc ce gars me connaît depuis longtemps. Il me connaissait avant même que je le connaisse, moi, que je connaisse ses œuvres.
D'accord. Et en fait, en tant qu'ufologue.
En tant qu'ufologue, oui. Parce qu'il a intérêt, apparemment, s'il a fait une sculpture en forme d'ovni, c'est qu'il a intéressé plus ou moins par le sujet, quoi, je pense.
Il y a aussi un autre lieu dans ton département où il y a une soucoupe au-dessus d'un mât, chez un particulier.
C'est un témoin qui a vu un phénomène ovni à Pontigny même, dans le village de Pontigny, ou la ville de Pontigny, comme on veut, vers l'abbaye. Et donc, ce monsieur qui était photographe, et puis qui était aussi un peu... Oh, il faisait plusieurs choses. Hein. Il, Il faisait pas mal de maquettes, de choses comme ça, où il parlait d'ufologie, il faisait des tableaux de peinture, des photos, des trucages, des trucs comme ça. Et donc, suite à sa rencontre avec cet ovni qu'il avait vu à Pontigny, il avait mis une soucoupe volante en plexiglas en haut d'un mât, et il avait relié tout ça avec une antenne en métal et des fils électriques, et il essayait de communiquer, mais réellement, avec les entités qui étaient venues se positionner à Pontigny et qu'il avait vu donc en tant que témoin.
Merci Rémi, on te retrouvera tout à l'heure. Comme dans cette émission on balaye ou on résume tous les styles du faux-pop, nous allons à présent aborder les jouets.
Je ne saurais pas dire combien il y a de jouets à thème OVNI, c'est fou. Tous les pays en ont fait. Les Japonais ont été les rois de la soucoupe en tôle, tu vois, et dès les années 50. Hein, voilà. Il y a qu'en fait les premiers jouets. Il y avait un site qui n'est plus maintenu, malheureusement. Enfin, il existe toujours, mais il n'est plus alimenté. Parce que le fondateur de ce site est décédé. C'était UFO Pop, justement. Mm-hmm. C'est le site UFO Pop. Et en fait, il a tout classé, ce qu'il a trouvé, par année. Voilà. Et dès 1947, il y a des jouets soucoupes. Tout de suite, les fabricants de jouets ont commencé à faire des jouets soucoupes. Voilà. Et je dis, les jouets, c'est incommensurable. Les plus grandes entreprises comme Lego, comme Playmobil, ont fait des soucoupes. Mmh. Voilà. Et puis plein d'autres, et puis toutes sortes de soucoupes. Le frisbee, c'est une soucoupe.
Le frisbee, ça a permis de faire beaucoup de canulars.
Oui, aussi. Bon, tout à fait. Même les pigeons d'argile. Hein. Les pigeons d'argile, ça a permis de faire des canulars aussi. Hein. Mais voilà. Alors ça, c'est les jouets pour les gamins. Après, il y avait ce qu'on appelle le modélisme. Alors, tu as le modélisme qui reprend des soucoupes, la soucoupe des envahisseurs, la soucoupe de plein de films différents, hein, les soucoupes volantes attaques, la guerre des mondes et compagnie. Et puis, il y a même des soucoupes, entre guillemets, qui sont issues, par exemple, la soucoupe de Bob Lazar. Ce type qui prétendait travailler dans la zone 51. Donc, il avait présenté une soucoupe qui est archi connue, elle est reprise partout.
La soucoupe d'Adamski aussi.
Oui, Adamski, oui, en maquette. Enfin, il y en a plein. Et après, il y a l'aéromodélisme. Et dès les années 50, je crois que j'ai un magazine d'aéromodélisme qui s'appelle Model Magazine. Qui présente une soucoupe volante en 51, à fabriquer soi-même en balsa, avec un petit moteur et tout, tu vois, dès les années 50. C'est au niveau des jouets, c'est inchiffrable. Voilà. On ne peut pas chiffrer le nombre de jouets à thème soucoupe, ou martien, ou extraterrestre, qui existent. Voilà, et puis après, t'as d'autres choses. On pourrait parler pendant des heures des jouets, mais parlons des choses plus rares, peut-être que les jouets, même s'il y a des superbes trucs dans les jouets. Hein. Il y a les soucoupes domestiques. Voilà. Alors, on en a trouvé plein. On a trouvé des soucoupes, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle dans les années 70 les lampes soucoupes. C'est-à-dire les luminaires soucoupes, c'est-à-dire les trucs que tu mets dans ton salon et qui sont en fait des formes de soucoupes volantes, même si ce n'est pas vraiment des soucoupes, ça a été. On a posé dessus le mot soucoupe. Voilà. Alors, ça, c'est une chose. Après, tu as des pièces des objets de cuisine. À thème, c'est incroyable. Il y a des salières poivrières, voilà. Il y a des fêtous, hein, en forme de soucoupe, tu vois. Le wok est une soucoupe à part entière. Il y a une soucoupe d'Adamski il y a un objet en forme de soucoupe d'Adamski, c'est plutôt ça, et qui est un diffuseur de parfum. et ça date, c'est en cuivre, ça date des années 50. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de tirelires, et il n'y a pas que des tirelires pour les enfants, parce que ça, c'est connu aussi. Mais il y a entre autres une banque américaine qui avait fait une soucoupe, enfin une tirelire en forme de soucoupe. Mais alors là, elle est splendide. Franchement, c'est un très bel objet. On en trouve quelques-uns sur le eBay États-Unis. Mais ça coûte une fortune. Voilà. Mais ce genre de choses, il y en a plein. Il y a des tasses. Alors, voilà. Ça, c'est le gag. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des services à thé, des services à café. Alors, bien sûr, il y a la soucoupe dessous, évidemment, quoi. Donc, saucer, etc. Alors, il y a des petits malins qui se sont dit, ah ouais, on va faire des services à café ou à thé, et on va mettre des soucoupes dessus. Il y a des soucoupes sur la soucoupe. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est un peu plus marginal. Il n'y en a pas non plus autant que les jouets, bien sûr.
Y a-t-il d'autres types ou formes du faux-pop qui sont moins connus par le grand public ?
On peut classer dedans aussi les faux articles de presse. C'est-à-dire que, et ça on a la preuve dans la presse française qu'on a déjà dépouillé parfois depuis longtemps, dès 47, parce qu'il faut savoir qu'on dit, ouais, toujours, oui, ce qui se passe aux États-Unis, enfin, ou en Amérique du Nord, ça met 10 ans à traverser l'Atlantique. Je dirais que le 24 juin 47, c'était Kenneth Arnold, et le 10 juillet 47, c'était le premier cas en France. Voilà. C'était Nancy, en France. Et puis ensuite, Barcelonnette, toujours au mois de juillet. Voilà, ça s'est embrayé sur les soucoupes tout de suite. Et tout de suite, t'as des petits malins qui ont dit « Ouh, ça peut être intéressant, parce que comme ça intrigue les gens, on va utiliser ça pour faire notre pub. » Et les gars, ils ont trouvé un système, mais génial, et ça a duré pendant des années. Jusque dans les années 70, on en trouve. C'est-à-dire, ils te présentent ça comme un vrai article de presse, comme un fait divers. Et, soucoupe volante à tel endroit, hein. Et selon des témoins dignes de foi, on a vu atterrir sur la place machin une soucoupe volante et descendre. Alors qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de RR3 en 47. Eh ben, ils en parlaient déjà, hein. Parce que on parlera après du fait que le thème martien est beaucoup plus ancien que le thème soucoupe volante, hein. Donc deux martiens descendent de la soucoupe et vont dans le magasin de Monsieur Intel, parce que c'est là qu'on vend les produits de telle marque, hein, qui sont connus jusque sur Mars. Voilà. Et ça, des trucs. Alors, ça, bon, j'invente un peu, hein, mais c'est exactement ça. Et ça, il y en a des dizaines, et peut-être des centaines dans la presse française. Alors, il y en a dans la presse belge aussi. Enfin, dans les presses francophones, on est sûr, il y en a. Au Québec aussi, il y en a, hein, on en a trouvé. Il y en a en Suisse aussi, dans la presse francophone suisse, dans la presse francophone belge. Il y en a. Il y a ce genre de faux articles, en fait. C'est présenté comme un article de presse, comme une information, alors qu'en fait, c'est juste pour te dire que les Martiens viennent acheter même des pubs. Hein. J'ai une pub énorme qui est malheureusement dans mes classeurs. Là, j'aurais pu la sortir avant. Plus qu'à trois, comme ça, un truc, une vraie affiche. Et c'est pour que les Martiens... les Martiens ont débarqué en Côte d'Or pour venir ou en Saône-et-Loire, je ne sais plus, pour venir acheter les cocottes Le Creuset. Peut-être des cocottes minutes, je ne sais pas exactement. Enfin bon, parce qu'ils n'ont pas ça sur Mars. Il n'y a qu'en France qu'on fabrique ça. Voilà, la publicité s'est emparée du thème tout de suite. Et souvent, ce n'est pas des grandes marques publicitaires au départ. C'est des petits, des petits entrepreneurs locaux, hein, des épiciers, des marchands de vêtements, des marchands d'électroménager, mais locaux, tu vois, c'est dans leur magasin à eux qu'il faut venir chercher et que les Martiens ont visité pour acheter quelque chose, ou même pour voler. En 1954, on voit attirer une soucoupe avec deux Martiens. Le témoin dit oui, ils sont partis derrière. Et ils sont revenus avec un grand truc blanc, cubique. Oh, c'était une machine à laver, parce qu'il n'y a pas ça sur Mars. Mais il y en a plein, c'est incroyable. Et ce qui est hallucinant et marrant à la fois, mais triste aussi, je vais dire, c'est qu'il y en a qui ont été pris au sérieux par les ufologues. Pour la publicité, il n'empêche que assez rapidement, les publicitaires, des grandes entreprises, ont compris assez rapidement que c'était un créneau à ne pas négliger. Et on a vu des pubs avec des soucoupes Toshiba, Perrier. Et aux États-Unis aussi, il y en a des célèbres, entre autres pour une compagnie aérienne, pour des compagnies pétrolières, pour des entreprises automobiles aussi, pour des grandes entreprises automobiles, où le thème soucoupe a été utilisé. Alors après, ça va plus loin, parce que dans les années 50, on a créé plein de prototypes d'automobiles qui avaient des formes révolutionnaires, comme la Sabre par exemple, qui avaient des formes révolutionnaires, avec à la place de l'habitacle qui avait une bulle en plexiglas. Voilà, il y a plein de modèles qui ont été créés par les constructeurs automobiles qui n'ont jamais, si tu veux, eu d'avenir, mais c'était des dream cars, comme on dit, hein, c'est des voitures de rêve. Et c'est pareil, hein, c'est l'utilisation du thème, hein, ni plus ni moins. Hein. Et je vais dire que ça va très très loin, hein, parce que j'ai trouvé sur eBay des fruits qui s'appelle Flying Saucer, des pêches aux États-Unis, qu'on fait pousser en Californie, et la variété s'appelle Flying Saucer. Ou non, UFO. Nous, on a eu une boisson énergisante, plus ou moins à base de curaçao, mais qui était un mixte avec alcool et soft, toi. Donc, et qui s'appelait UFO aussi. On en a une caisse entière de bouteilles vides. Il y a des fleurs, hein, y a des hippomées, c'est une variété cultivée du liseron qui s'appelle aussi Flying Saucer. Parce que, en fait, la fleur elle ressemble à une soucoupe volante, si tu veux. Enfin, quand tu vois le liseron, à quoi ça ressemble? Une grosse fleur blanche ou rose. Et là, donc, les hippomées, il y a une déclinaison de couleurs assez importante, violet, rouge, etc. Et en fait, il y a une variété qu'on trouve sur eBay qui s'appelle Flying Saucer ou UFO, ou soucoupe volante, je ne sais plus. Ben voilà. Toi, l'utilisation du thème, elle se trouve dans toute la société, dans toutes les couches de la société. Donc, vraiment, à tous les niveaux, tu peux trouver le thème qui est abordé d'une façon ou d'une autre, qui est utilisé d'une façon ou d'une autre.
L'UFOPOP, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui t'intéresse beaucoup à toi aussi et aussi à d'autres. Il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes sont tombées dans le domaine de l'ufologie, enfin, ont commencé plutôt à s'y intéresser avec l'UFOPOP, que ce soit dans les séries TV, les films, etc.
Évidemment, comme je dis, moi qui suis maintenant bientôt septuagénaire, hein, dans 2 ans j'ai 70 ans, j'ai commencé en 69 avec la série Les Envahisseurs. D'autres, à peu près à la même époque, ont commencé plutôt du côté de la Belgique, Luxembourg, Allemagne et Italie avec la série UFO, la série britannique, très différente quand même de la série Les Envahisseurs.
Mais pour revenir un instant sur l'association SO, Sauvegarde et Conservation des Études et Archives Ufologiques, est-ce qu'il y a des fonds où il y a de l'UFOPOP ? Est-ce que tu peux nous en parler ?
Quand on a récupéré le fonds Guy Lothaire, des produits dérivés donc de l'UFOPOP, on en a 2 caisses entières. On a des cendriers, soucoupe, des tirelires aliens, on a des maquettes, on a également un truc, alors, c'est toute une famille d'extraterrestres, c'est des personnages en tissu, tu vois. Alors il y a le père, la mère, la fille, le fils et le bébé. C'est assez rigolo, quoi. Alors, c'est les petits gris, parce qu'ils ont le visage un peu gris, quoi. Il y a plein de choses dans le fond de l'hôtel. Et justement, il y a aussi un stock de petits porte-clés. Je collectionne toutes les cartes postales.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Un thème OVNI et soucoupe volante. Mm-hmm. Alors, soit c'est vraiment, il y a des soucoupes dessus. Hein. Alors, c'est des, alors je dis soucoupe, carte postale. C'est carte postale qu'on envoie, qu'on s'envoie, qu'on s'envoyait. Et carte postale publicitaire, tu vois, c'est-à-dire flyer en fait, hein. Mm-hmm. Mais sous forme carte postale, format carte postale. Et j'en ai plusieurs centaines. Il y a des choses très intéressantes. Il y a des choses. Bon, déjà, il y a des illustrateurs qui se sont, intéressés au thème et qui ont sorti des séries. Il y a Vernet, par exemple, qui est archi connu, avec des déclinaisons de toutes sortes, hein, des cartes. Bonne fête, bon anniversaire, joyeux Noël, etc. En fait, c'est des petits, c'est des poulbeaux, comme on dit. Hein. C'est des poulbeaux. Il y a le poulbeau jardinier, il y a le poulbeau sur un scooter avec sa copine derrière. Et il y a toujours une soucoupe dans le ciel. Il y en a d'autres. Ça, c'est un truc. Je pense que c'est espagnol à l'origine. C'est une carte postale avec une préadolescente, je vais dire, entre guillemets. Hein. Mmh. Et en fait, c'est une carte postale avec une soucoupe derrière. Et en fait, c'est une carte postale à broder. Tu vois ? Mmh. C'est assez bizarre, hein ? Et qu'en fait, tu fabriques les vêtements de la fillette. Ouais, j'en ai deux avec, disons, qui ont été. C'est, tu fais ça toi-même chez toi, quoi. C'est un petit ouvrage au crochet ou un petit ouvrage de couture. C'est assez rigolo, hein. Et puis t'en as plein d'autres. T'as un Espagnol qui avait fait toute une série aussi, 13 années 70, avec des cosmonautes, des choses comme ça. T'as des trucs humoristiques, parfois qui volent pas très très haut, hein, avec des grosses blagues bien salaces.
On est quand même habitué aux blagues qui volent pas très haut. Mais là-dessus, nous retournons à la pause. Attendez-nous quelques minutes.
96. Rive Sud.
96.9, les filles. Pas pour les
doués.
CGMD 96.9, les filles. La seule place où on réinvente la radio.
Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
Nous voilà de retour pour la deuxième demi d'enquête de terrain. Gilles, c'est à toi.
On peut mentionner aussi quelque chose qui est de l'art finalement, de l'imaginaire. Ce sont les carnavals. Et il y a eu par le passé des chars avec des soucoupes volantes.
Oui, alors là aussi, toi t'es mieux placé que moi pour en parler. Mais effectivement, dans les carnavals, il y a pas mal de chars souvent à thème ovni, ufologique, extraterrestre. Tu l'as bien rapporté sur ceux que tu as vus à Nice plusieurs fois.
C'est vrai qu'à Nice, on va dire que c'est surtout le martien. Quand je regarde, je remonte en arrière dans les années 60-70, il y a souvent eu des chars en rapport avec les martiens. Et donc, mmh. bien sûr, il y avait des soucoupes volantes. De ce que je me rappelle là, maintenant, en 1991, pour l'édition Le Roi des Rois, on va dire que cette édition, elle est particulière, parce que de base, ça aurait dû être Le Roi des Fous.
Ouais.
Et en 1990, mais on va dire 2 semaines avant que le carnaval commence, ils l'ont annulé par peur d'attentat, puisque c'était le début de la première guerre du Golfe. Donc ils l'ont annulé, mais à ce moment-là, j'ai eu la chance d'aller visiter la maison carnaval et j'avais vu ce char que j'avais revu après l'année d'après. Alors ça, je crois que c'était Les Fous sur la Lune ou un truc comme ça. En 2001, Roi du Troisième Millénaire, il y a eu le char Les Touristes de l'Espace, où c'était le personnage, c'était un grand martien avec plein de soucoupes volantes devant lui, avec des touristes avec des appareils photo. Mais là où il y a le plus, il y a eu le plus de soucoupes volantes, c'était au Roi de l'Espace en 2018. Alors là, c'était vraiment l'invasion des soucoupes volantes sur les chars. Il y en avait plein. Il y avait même un char où il y avait une grosse soucoupe qui abductait, enfin qui enlevait le hashtag I love Nice. Et il y avait plein de touristes qui faisaient des photos. Il y avait même des grosses tentacules qui sortaient de la soucoupe avec des appareils photo. Et cette année, pour le Roi de la pop culture, je veux dire en 2024, la seule soucoupe qu'on pouvait voir, même si c'est pas une soucoupe, c'est l'avant de l'USS Nissa, autant dire l'USS Enterprise, mais là c'était l'USS Nissa, où c'était l'avant du vaisseau. À l'intérieur, bon, il y avait des éléments de la pop culture, il y avait Sonic, il y avait le logo des SOS Phantom, il y avait Bob l'éponge aussi, et puis bon, là on va dire que le char, c'était le char du roi. Moi j'ai trouvé le clin d'œil bizarre, sachant que les fans de ces deux séries de films ne peuvent pas forcément bien se saquer, on va dire. C'était Luke Skywalker qui était assis sur l'USS Nissa, ou l'USS Enterprise. Donc il y avait un mélange de Star Wars et de Star Trek. C'était curieux d'ailleurs, ce char. C'était, c'était la satire carnavalesque, c'est-à-dire qu'on se moque de tout. Mais sinon, il n'y a pas eu plus de soucoupes cette année pour la pop culture.
Il existe des thèmes sur... sur Internet, il y a des cartes postales qui traînent. Il y a entre autres une carte postale très connue. Moi en fait, je les télécharge, c'est visuel pour les garder, parce que je ne vais pas tout acheter non plus. Et c'est une cavalcade, donc un défilé au Canada dans les années 50. Il y a aussi... alors ça, c'est plus intéressant. Là, j'ai acheté la carte postale. C'est une... alors, je crois que c'est une fanfare. Dans les années... je ne sais pas trop, mais avant la Deuxième Guerre mondiale, ça, c'est sûr, c'est un carnaval où il y a un groupe de martiens. On est dans les... allez, je vais dire qu'on est dans les années 20-30, peut-être même avant, je ne sais pas. Exactement. On sait qu'on n'a pas la date exacte. Je crois que c'était 1932 quand même, je crois. J'avais fait le compte parce qu'il y avait le millésime sous forme de 32e comment 32e festival ou 32e carnaval. Donc quand tu sais quand il a commencé, t'additionnes, mais bon, après il y a peut-être des années où il n'y en a pas eu, je ne sais pas. Moi, j'avais vaguement pensé que c'était 1932, si ma mémoire est bonne.
C'était pas Aix-en-Provence
Ouais, c'est ça, c'est dans le sud. Oui, c'était ça, c'était peut-être Aix-en-Provence.
Et c'est bien ce genre de carte postale, parce que ça permet de voir ce qui se faisait auparavant et de bien démontrer que le thème martien ou Mars était peut-être arrivé avant les soucoupes volantes, mais ça, c'est un autre sujet.
C'est très intéressant parce que ça montre bien le contexte du moment où on parle énormément de la planète Mars. Dans les années, fin des années du 19e siècle, les années donc 1890, par là, après la découverte des canaux de Mars par Schiaparelli, la guerre des mondes de Wells, etc. Les martiens étaient très à la mode. D'ailleurs, tu remarqueras peut-être que au dos de la carte, c'est marqué martien avec un S et non pas avec un T. Tu vois ? On a longtemps, même jusque dans les années 50, les deux orthographes étaient autorisées. Maintenant, tout le monde met un T à martien. Alors qu'en fait, c'est vrai que le S, c'est plus logique. Hein. Mars avec un S, martien, hein, c'est très logique. Je ne sais pas comment ça a dérivé en M-A-R-T, hein, ça, je ne sais pas. Hein. Et voilà, donc, bah oui, c'était il faut que les gens s'en imprègnent de ça. C'est qu'on parlait énormément de Mars et des martiens et dans les années, les 30 premières années du 20e siècle et 10 dernières années du 19e à peu près. Et donc là, on a une fanfare de martiens. Voilà, ils sont habillés avec des grandes oreilles. Ils ont des grands yeux aussi. Hein. C'est assez marrant. Hein. On dirait la tête, on dirait un peu la créature de Hopkinsville. Mm-hmm. Voilà. Oui, non, c'est très intéressant, je trouve, cette carte postale. Il y a celle de Bristol, exact, aussi. Qui date de 57, si je ne m'abuse, voilà, où il y a des martiens, enfin, 56, ouais. Mm-hmm. Sur le char, il y a des martiens, et tu remarqueras que, pour ça que je t'ai donné au départ, j'avais une version qui était un peu tronquée, et donc j'ai retrouvé la version non tronquée, où on voit sur la gauche de la photo un personnage avec une sorte de casque plat, avec juste une ouverture devant, très bizarre. Et puis autrement, sur le char lui-même, des martiens engoncés dans une sorte de tube. C'est assez sympa, quoi. C'est assez marrant.
Concernant les autres carnavals, j'ai vu dernièrement une vidéo sur YouTube d'un char au carnaval d'Argelès-sur-Mer, dans le département des Pyrénées-Orientales, il y a quelques années, qui était une soucoupe volante ou un crash d'une soucoupe. Et autour, les personnes étaient déguisées en petits gris de type Roswell. Dans tes archives, Gilles, tu m'avais aussi envoyé une carte postale ou photo où on voyait une soucoupe à la fête du citron à Menton, donc une soucoupe faite en citron et en orange, avec une petite vache et un alien à côté. Et Rémi, tu m'avais partagé une photo où on voyait une soucoupe volante faite en fleurs de papier crépon du côté de Blory, me semble.
Oui, à Blery, oui, il y a eu une année, la première année qu'ils ont fait ça, ils ont fait défiler une soucoupe avec des martiens sur un char. C'était un char qu'ils avaient fait. Et puis la deuxième année, ils ont conservé le même thème et la soucoupe et les martiens, mais ils l'ont pas mis sur un char, ils l'ont mis sur le mur de l'école de Blery.
D'accord, c'était une forme de décoration.
Voilà, une décoration en fixe, hein. C'était en statique, c'était...
Il y avait aussi un char avec une fusée de Tintin, non?
Oui, aussi, oui, un char, ça c'est un char, oui.
Et sinon, dans Lyon, t'as pas eu d'autres chars de soucoupe?
Non, mais j'ai eu une photo qu'on m'avait remise de Sergine où il y avait des martiens dessus.
Il faut préciser aux auditrices et auditeurs d'Enquête de terrain que le carnaval de Sergine, c'est l'un des plus importants du département de l'Yonne. Et selon les archives qui sont disponibles sur Internet, il y aurait mention de ce carnaval en 1848.
Ouais, mais moi, j'ai trouvé sur Internet aussi des photos de cavalcades de carnaval, de chars, en fait, très, 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 très succinct, entre guillemets, assez simplissime, quoi. Où on voit le tracteur devant, et puis tu as la remorque, et dedans, il y a une soucoupe. Mmh. Tu vois on a tous les niveaux, hein. Nice, c'est niveau très, très haut, quand même.
Mmh. Ah, j'allais oublier cette année aussi le carnaval de Rose en Espagne, où je sais pas s'il y avait un thème commun, mais il y a eu pas mal de chars liés aux ovnis, aux aliens, etc. Il y a eu un superbe char, alors là ça n'a rien à voir, c'est par rapport à une série TV, mais c'était la Syrienne Légion. Il y avait un gros reptilien sur le char, ils étaient tous déguisés, mais là c'était plus des déguisements un peu plus disco, hein. ça brillait, c'était pas comme la Syrienne Légion qu'on connaît. Et d'ailleurs, j'avais pris les photos et j'avais envoyé à la Syrienne Légion qu'on voit au Sir Galactic Day, aux autres événements dans le département de Lyon. Ils étaient super contents parce qu'ils s'imaginaient pas qu'à l'heure actuelle, en 2024, il y ait des chars qui parlent de ça.
C'est intéressant. Intéressant. Mais c'est sûr que il y a sûrement beaucoup de choses à chercher sur le thème OVNI dans pas mal de carnavals. et auquel on ne pense pas vraiment, quoi, parce qu'en fait on n'a pas l'historique. Il faut, si on veut faire l'historique, on verra qu'il y a des choses qui se sont faites au niveau du carnaval et de toutes les fêtes du même genre à travers les années et depuis les années 50. J'ai même trouvé une carte post, enfin non, des photos, hein, c'est plutôt des photos d'ailleurs, d'un carnaval sur la piste d'atterrissage d'un aérodrome militaire quand les Français étaient encore au Maroc. Et il y a une énorme soucoupe. Et là, on est dans les années 50, voilà, avant que les Français soient partis du Maroc. Mmh.
Voilà. Mais c'est pour ça, revenir au carnaval, ce qui est intéressant avec les carnavals, c'est que c'est révélateur de l'année écoulée. À part que tout carnaval a ses totems carnavalesques, ça peut être la légende du village, mascotte de la ville, d'une légende ou autre. Là, je pense par exemple à la fête du Baba à Rivesaltes, du côté du...
On est presque dans le les animaux mythiques, quoi.
C'est ça, mais en fait, le carnaval, s'il y a soucoupe volante sur des chars, ça veut dire que dans le courant de l'année, il y a eu une affaire dans le secteur aussi. En fait, c'est révélateur de la culture populaire du moment. C'est pour ça que c'est intéressant, les carnavals. Même niveau politique, Nice, c'est ça. De toute façon, cette année, il y avait un char sur la politique actuelle avec ce qui se passe en Ukraine, en Russie, etc. Et c'était le char de Mario Kart. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Super Mario ou Luigi, il y avait les politiques à la place avec des carapaces bleues, des carapaces, des trucs qu'il y a dans le jeu vidéo. Et comme le thème c'est la pop culture, c'était un char de la politique version jeu vidéo.
En fait, les mecs, ils ont beaucoup d'imagination pour, si tu veux, transposer des choses comme ça, tu vois, et si tu veux, utiliser des thèmes en les décalant, tu vois, un décalage important, tu vois, tu mets la politique dans Mario Kart, donc c'est complètement décalé, quoi. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, ça relativise les choses. Voilà. Même si on ne peut pas dire qu'il faut relativiser une guerre comme celle qui se passe actuellement en Ukraine ou celle qui se passe au Moyen-Orient, enfin à Gaza. C'est sûr que...
Je reprends, mais là on va quitter l'UFO-pop un instant. Quand il y a eu le Covid, il y a un char... Alors dans une émission, j'avais dit que c'était en Italie, mais ce n'était pas en Italie, c'était en Allemagne. Il y a un char où en fait tu avais le Covid, version... Enfin, c'était en carton-pâte. Donc le virus, et de l'autre côté t'avais le carnaval au virus qui lui faisait un pied de nez.
Ouais, c'est pas mal aussi. Oui, bien sûr, faut relativiser les choses, faut essayer de les dédramatiser, parce que en fait on peut pas avoir la tête dans le guidon tout le temps, et le carnaval ça sert à ça, hein.
À Nice, ils ont pris le thème aussi du Covid. En 2021, il n'y a pas eu carnaval. En fait, sur la place Masséna, il y avait un gros Covid qui bougeait avec une seringue qui rentrait dedans pour le vaccin. Et à la cérémonie de fin, quand ils ont brûlé le Covid, ils ont retiré la couronne du roi en disant « Tu as ça, l'usurpateur, tu as volé la couronne de notre roi, maintenant on va te brûler, et puis voilà. »
Oui, mais c'est aussi le principe de ça, hein. C'est-à-dire que, en dehors des thèmes, je dirais, d'actualité, les carnavals qui sont carnavals historiques, beaucoup plus anciens, hein, Binche, etc., beaucoup dans les Flandres belges, même les Flandres françaises avec les géants, etc. Là, il y a peut-être eu des soucoupes à un moment donné, mais c'est quand même intéressant. Ce serait intéressant de voir, hein. Par exemple, à Liège, c'est au 15 août, c'est la fête de la Vierge. Voilà. Donc là, t'as plein de géants, t'as Charlemagne, tout ça, t'as une dizaine de géants. Mais t'en as plein de géants, et puis après, ça rappelle l'histoire aussi, hein. Binche, ça rappelle, en fait, les costumes des Gilles de Binche, ce sont des costumes sud-américains. Mais quand je dis sud-américain, ceux de la conquête de Cortés et autres, hein, des conquistadors. Et c'est en fait des costumes qui sont inspirés de ça, des costumes des Indiens d'Amérique, enfin d'Amérindiens d'Amérique du Sud. Mmh. Mais je suis sûr qu'on peut en trouver plein. Alors il y a des déguisements, il y a plein. Alors on n'a pas parlé des déguisements, mais il y a plein de déguisements. Alors il y a les déguisements bien sûr dans les carnavals, il y a les gens qui sont déguisés pour les carnavals.
Mais il y a voir le déguisement qui est à la mode, enfin qui ressort beaucoup en ce moment, où c'est un alien qui prend un petit homme.
Oui, bien sûr, je suis connu. Mais il y en a plein, il y a des trucs super, il y a des en plus moi ce que je trouve intéressant c'est les déguisements maison fabriqués par les gens eux-mêmes. Il y a des trucs incroyables quoi. Il y a beaucoup de trucs dans les années 50. Il y en a un qui est toujours très cher, je ne l'ai jamais acheté, je l'ai juste téléchargé. C'est deux Yugus dans une soirée qui sont déguisés en martiens. C'est logoté au journal de la Tribune de Saint-Étienne. Et en fait, les gars, ils ont juste des antennes sur la tête et puis en fait, ils sont habillés avec une salopette verte. Hein. Enfin, je suppose qu'elle est verte, hein, parce que la photo est en noir et blanc. Tu vois, j'ai interprété, là. Et en fait, voilà. Donc, mais t'en as plein, des déguisements, il y en a plein. On en trouve plein sur Internet, des déguisements rigolos, de toutes sortes, à base de soucoupes. T'as un déguisement qui est archi connu. Enfin, moi, que je connais. Et en fait, t'as la personne qui est habillée en être humain, et au-dessus, il y a une soucoupe. Alors, elle a tout un appareillage, une soucoupe avec un faisceau. Mais en fait, le déguisement, c'est un truc qui est au-dessus d'elle, quoi, la personne, en général. Donc voilà, c'est un truc, il y a la soucoupe, il y a le faisceau qui descend sur ses épaules.
Je veux dire à nos auditrices et auditeurs d'Enquête de terrain, peut-être qu'il y a un carnaval au Québec qui est très célèbre, c'est le carnaval de la ville du Québec. Et si jamais vous avez dans vos archives des photos,
des infos,
envoyez-les-nous. Hein.
Oui, alors je disais, donc les décos de Noël, j'en ai découvert dans des complètement de façon complètement parallèle, si j'ose dire. Donc il y a déjà celle qui est très connue, c'était les décos de Noël de Noël 54 à Bruxelles. Bon, j'ai récupéré deux photos. Il y a une vidéo qui existe sur la Sonuma, qui est l'équivalent de l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, qui s'appelle Sonuma en Belgique, où il y a tout un reportage sur les décos de Noël à Bruxelles. Et les décos de Noël de Bruxelles sont complètement axés sur les soucoupes volantes. Il y a des soucoupes, des martiens, les grands magasins, comme on dit, il y avait des comme chez nous au printemps, à la Saint-Maritaine et au Galeries Lafayette, tu sais, il y a des vitrines de Noël, il y a beaucoup d'automates. Et là, c'est pareil, il y avait des automates soucoupe, etc., des automates extraterrestres, martiens à l'époque, hein, bien sûr. Et j'ai appris, dans une émission qui n'a rien à voir, qui s'appelle « Affaires sensibles » sur France Inter, qui est repassée deux fois d'ailleurs, on peut la trouver. En fait, c'est sur « On a brûlé le Père Noël ». En fait, c'est à Dijon où, en 51, le Père Noël était pas trop bien vu de toute la partie catholique des habitants, pas simplement d'ailleurs de Dijon. Et en fait, ils ont brûlé le Père Noël devant la cathédrale, enfin bref. Mais toujours est-il que le journaliste, et ça c'est un extrait d'un journal radio de 1951, le journaliste, il parle des décos de Noël, il dit dans la rue, machin, qui est décoré avec des soucoupes volantes. On est en 51. Hein. Donc là aussi, ça fait partie du faux pop, les décos de Noël. Et il y a aussi Halloween, quelque chose de récent chez nous en Europe, mais il y a quelques années, il y a eu des maisons, des gens qui ont décoré leur maison pour Halloween avec des personnages grandeur nature, quoi. Hein, tout est relatif. Hein. Enfin, des personnages qui devaient faire debout 1m20, 1m30 devant chez eux, c'était des petits gris.
Hormis les déguisements, les décorations de Noël, d'Halloween, il y a aussi quelque chose d'autre qu'il y a dans certains départements, les courses de caisses à savon ou les OFNI du côté de Villeneuve-sur-Yonne, c'est-à-dire les objets flottants non identifiés. Est-ce que tu aurais eu vent de caisses à savon ou d'OFNI en forme de soucoupe?
Franchement, caisses à savon et objets flottants, c'est possible, mais j'ai pas d'infos là-dessus. Pas du
D'accord.
tout. Voilà. Par contre, en 54, il y avait les comment. Là, il faudrait en parler à Raoul Robet, qui a fait un petit travail là-dessus, hein, parce que lui, il était passionné par les Vespa. Et donc, dans 54, alors je sais plus comment ça, il s'appelait, j'allais dire les lunatiques, mais je suis pas vraiment sûr que ce soit ça. Enfin, toujours est-il que il y avait une association d'amateurs de Vespa, alors que ce soit des Vespa scooters que des Vespa voiturettes, tu vois. Et en 54, ils ont défilé, donc déguisé leur scooter hein, en engin spatial, eux-mêmes déguisés en cosmonaute ou en martien comme à l'époque. Et un des scooters a été transformé en soucoupe volante. Et c'est lui qui menait le défilé. Voilà. Donc ça ressemble un peu aux caisses à savon en fait, hein, tu vois. Un peu ça, mais c'est le seul exemple que j'ai comme ça. Mais on doit en trouver, hein, on doit en trouver parce que c'était souvent relayé par la presse plutôt qu'autre chose. Il y a peut-être eu des caisses à savon en forme de soucoupe, en forme de fusée ou de cigare volant. Enfin, on peut, je sais pas trop. Mais enfin, bon, bref, ça a dû exister, mais malheureusement, j'en ai pas. J'en ai pas dans ma base, j'en ai pas dans mes archives.
D'accord.
Nous allons à la dernière pause. Attendez-nous, on revient dans quelques instants.
Vous écoutez l'alternative radio anticonformiste, innovante, fucking fresh, 96.9.
Hey, salut les wack,
les frères barbus. C'est à toi qu'on parle.
Et les wack, c'est les frères barbus.
Oui, les frères barbus, à qui qu'on parle?
Fuck you, manger de la merde. Laissez-moi le p*** à gang de rot, frère barbu. Allez, j'y vais.
Yeah!
Ceci étant dit...
Enfin de l'action! Enfin de l'action par les frères barbus!
En plus d'avoir ton réveil matin qui te fait chier, mets ton réveil soir à 22h les mardis, les frères barbus!
Tu n'as jamais joué au bingo de CGMD? Ah ben ça, c'est très triste. Tu sais, nous, la seule chose qu'on veut, c'est de donner de l'argent, dans le fond. Hein? Ça t'intéresse? 969FM.ca, section bingo pour les détails. 3000$ tous les dimanches 15h.
Écoute ça. Vous écoutez CGMD 96.9.
Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
Nous sommes de retour pour le dernier quart d'émission. Nous retournons sur le sujet de l'UFOPOP.
Revenons à l'association SOGILE. Dans les archives, il y a beaucoup d'UFOPOP?
Ah, il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal. La preuve, ce que je t'ai envoyé hier sur Pâques, c'est Philippe Drab. Mais il en voit pas mal. Il y en a sans d'autres que je t'ai pas envoyé. Je pourrais peut-être te les envoyer. Il y a Raoul, bien sûr. Évidemment, Raoul. Il y a Thierry. Mm-hmm. Alors Thierry, c'est plutôt les... Enfin, c'est tout. Il y aura tout ce qui concerne l'UFOPOP. Il a énormément d'objets, lui, hein. Énormément d'objets. Que ce soit des extraterrestres, que ce soit des véhicules, des soucoupes, il en a énormément. Raoul, c'est pareil, mais Raoul n'a plus de place, donc il arrête, il essaie de trouver des trucs ou dématérialisés ou des trucs qui prennent pas de place. Mais voilà, il a... Alors lui, il faut savoir que Raoul, il est intéressé par des exemplaires du vol 714 pour Sydney dans toutes les langues. Mmh. Alors si au Québec, il y a une version de Tintin, donc 714, vol 714 pour Sydney en québécois, il est preneur, si vous trouvez ça, si ça existe surtout. Je ne sais pas. Fait que nous, en France, on a des versions officielles hein, qui sont authentifiées et validées par les héritiers, en occitan, en breton, en ch'ti, je crois aussi, en alsacien. Voilà, c'est à vérifier pour les alsaciens, mais je sais qu'il y en a une en occitan et en breton, c'est sûr. Voilà. Ouais, est-ce que donc, il pourrait y en avoir en québécois. Mmh. Voilà. Je sais qu'il y en a, il y a une version en catalan.
Pour toi, l'Ifopop, parce que c'est un endroit finalement où les anciens ufologues, les anciens enquêteurs s'y mettent, parce que finalement, c'est là où il y a moins d'histoires, c'est moins toxique, quoi, finalement.
Oui, mais de toute manière, l'ufologie, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Les extraterrestres, les ovnis, on en parlera toujours. Je ne sais pas à quel degré et à quelle position. Il y aura les hyper-croyants, il y aura les sceptiques, il y aura tout ça. Je ne sais pas à qui, au final, qui dominera. Est-ce que ça s'écroulera ou est-ce que ça ne s'écroulera pas, mais je ne sais pas. Mais de là, de cette ufologie, là, il y aura toujours de l'ufopop, à mon avis. Mmh. Il y aura toujours de l'UFOPOP qui, au fur et à mesure dans 10 ans, 20 ans, il y aura toujours de l'UFOPOP. Faire un petit logo avec une soucoupe volante et un martien, ça, on le verra toujours. Mmh. C'est passé dans les mœurs, hein, ça, maintenant. Hein. C'est dans la culture, dans les mœurs, partout. Hein. Et de toute manière, il y aura toujours des films de science-fiction pas sur les martiens, mais sur les extraterrestres et sur les vaisseaux spatiaux, etc. Et donc, de là découlera l'UFOPOP, c'est sûr.
Bah, d'ailleurs, là, il y a quelques minutes avant que je commence l'enregistrement, j'ai partagé sur la page Facebook d'ODHTV une bande-annonce d'un film sud-coréen qui s'appelle Alienoid, les protecteurs du futur.
Oui, mais de toute manière, s'il n'y a plus d'ufologie ou s'il n'y a plus assez d'ufologues ou si c'est un peu passé de mode, il y aura toujours le cinéma qui sera là pour parler des vaisseaux extraterrestres et puis des vaisseaux et des extraterrestres, des entités extraterrestres aussi. Hein. Ça, c'est un thème, de toute manière, il est là depuis les années, depuis qu'il y a le cinéma, hein, depuis que le cinéma existe, depuis que l'homme a regardé au-dessus de sa tête, et puis ça continuera, hein, c'est sûr, ça. Il y aura il y aura des séries, il y aura des films, il y aura tout ce qu'on veut, c'est sûr.
Et toi, Gilles ?
Bah, moi, si je me suis cantonné à la sauvegarde d'archives, c'est naïvement, parce que je pensais qu'il y aurait là qu'il y aurait le moins d'histoire. Et puis j'étais pas. Je laissais aux autres le fait de faire des enquêtes. Moi, personnellement. Ça m'intéressait, j'en l'ai fait. Mais je ne vais pas dire que c'était que j'étais à l'affût pour... cette façon de parler. J'étais à l'affût pour faire des enquêtes dès qu'il y en avait une qui pouvait se présenter. Il y avait des gens bien plus aguerris que moi pour faire des enquêtes correctes. Voilà. Puis il y en avait qui étaient des gugus rigolos aussi, qui faisaient des enquêtes et n'importe comment. Mais ça, c'est... Donc c'était ça aussi. Alors, oui, après, t'as tout le... toutes les controverses, etc. Voir les acrimonies, voir les méchancetés, les violences même. Hein. Il y en a qui se sont battus. Hein. Ça s'est terminé au tribunal. Voilà. Eh ben non, même si je croyais être à l'abri de tout ça au sceau, mais il s'est avéré qu'on s'est mis à taper sur le sceau. Voilà. En disant que comme on avait le premier président était un lieutenant de l'armée de l'air. Disons qu'ils se sont mis en cheville avec le gouvernement pour nous retirer les archives et pour les cacher, hein, pour qu'on n'ait pas accès aux archives. Voilà ce que, en fait, dès 91, il y a des ufologues qui ont commencé à raconter ce genre de conneries. Et il n'y a pas longtemps encore, il y en avait qui y croyaient. Et qui y croient certainement encore. Voilà, bon. je pensais effectivement qu'en ne faisant que de la sauvegarde d'archives, au contraire, tout le monde allait nous applaudir. Eh ben non, il y en a qui nous ont craché dessus. Mmh. Voilà. Il y en a qui ont même dit on va vous brûler vos archives. N'importe quoi. Et effectivement, l'UFOPOP, bah, c'est, si tu veux, tu peux te réfugier dedans. Mais même là, tu vois, la preuve, c'est réfugié dans l'UFOPOP et tu te retrouves avec recevoir des messages en disant c'est inadmissible que vous donniez des porte-clés avec des martiens, enfin, avec des aliens, parce que c'est se moquer du phénomène OVNI. Parce que le phénomène OVNI, c'est très sérieux.
C'est à peu près le même commentaire que j'ai reçu quand j'ai envoyé l'une des dernières éditions de Matin OVNI, où c'était spécial Matin UFOPOP. Voilà, et ça parlait que du UFOPOP. Et ça a été mal perçu par certains.
Voilà, comme quoi, tu étais à l'abri de rien, nulle part. Tu crois que c'est un truc que tout le monde va apprécier, et ben non. Tu as toujours des gens, toujours des pisse vinaigres qui vont venir te faire chier, quoi.
Jenny, enfin, la co-animatrice de l'émission, pourtant, elle avait... Bah, je crois que c'est dans cet épisode où elle parlait de ça, d'ailleurs. Elle disait, comment peut-on se battre sur une carte postale où tu vois une soucoupe volante avec le Père Noël dedans?
C'est là que ça fait la différence. Tandis qu'avoir un Père Noël dans un OVNI, y a rien qui peut vraiment... On peut pas s'abstiner là-dessus, là. On peut juste regarder et puis dire...
Tu fais référence à l'UFOPOP numéro 82 qui a été diffusé sur Instagram tout à l'heure?
Oui, et que j'ai mis les hashtags. Quand je l'ai mis, je me suis dit, il n'y a personne qui peut se disputer là-dessus. Là. Donc, c'est ce qui fait la différence pour moi entre l'UFOPOP et l'UFO tout court. Ça permet d'en rester à un niveau plus agréable de la chose. Et c'est là que les films d'action, de science-fiction rentrent en compte.
Oui, oui, ah ben exactement. Moi, j'ai une collection de cartes postales avec des Pères Noël dedans. Et des soucoupes volantes, je veux dire. Avec des Pères Noël dedans. Et là, je suis allé les chercher jusqu'en Russie. En Russie, en Ukraine. J'achète des cartes à l'Est, très à l'Est. Et en fait, c'est entre autres, je ne suis pas le seul, j'ai quelqu'un qui fournit des cartes postales qui viennent d'Ukraine ou de Russie. Ah oui, entre autres, et plusieurs cartes postales avec des soucoupes volantes et des Pères Noël dedans. Mmh. Et même, il y en a même un où c'est marqué CCCP, tu vois, on n'est pas... C'est pas récent, hein. Donc c'est déjà à l'époque de l'Union soviétique. Voilà.
Mmh. Bah là, je pense qu'on va...
Donc ça, je dirais en deux mots, ça veut dire que ça a touché le monde entier, l'UFOPOP. L'UFOPOP, t'en trouves partout. Il n'y a pas un pays qui a échappé. On n'a pas parlé des séries de cartes téléphoniques à l'époque où il y avait des cartes téléphoniques. Même, il y avait une banque en France, pour ne pas la nommer, le Crédit Lyonnais, qui faisait des cartes bleues personnalisées. Il y avait Feu Monsieur Rancillon, qu'on avait fait une avec les pyramides d'Égypte et une soucoupe au-dessus. Il avait proposé son visuel et il avait été imprimé comme ça. Comme quoi, ça va très loin. Voilà. Il y a des séries de cartes. On n'en a pas parlé, mais LDLN et la SOBEPS ont fait des séries de cartes postales sur les ovnis. Hein? Voilà. Et le Sceau n'est pas loin d'en faire une. Avec les illustrations de Frédéric Bauche.
Et niveau bande dessinée.
Mais dans les Tintins, dans les faux Tintins, le seul vrai Tintin qui parle de soucoupe, c'est Vol 714 pour Sydney. Mais après, d'ailleurs, j'en ai acheté un, j'en ai trouvé un à la foire, au salon des livres d'occasion à Liège. J'ai trouvé un faux Tintin. Alors, tu parles que je l'ai pris, hein, je ne me suis pas gêné. Donc, c'est Tintin dans la zone 51. Voilà. Voilà, donc il y a plein de Tintins avec des soucoupes volantes. Hein. Le thème soucoupe volante et Tintin s'est développé chez les dessinateurs qui bravent, si tu veux, l'interdiction de recopier Tintin, quoi, de faire des nouvelles bandes dessinées en dehors d'Hergé. Oui, parce que la famille est très stricte là-dessus et te colle au tribunal tout de suite. Je dirais que dans la bande dessinée, il y a plein de... le thème soucoupe, OVNI, extraterrestre, on le trouve énormément. Il y a un dessinateur belge qui s'appelle Players, qui a fait Les êtres de lumière. Et en fait, ce type-là a été témoin d'OVNI et son témoignage est dans le fond d'archives de Franck Boite. Et il a été également publié dans un Infor-Espace de la SOBEPS. Parce que, comme c'est un très bon dessinateur, un dessinateur de BD, il avait dessiné ce qu'il avait vu. Voilà. Il n'a pas demandé à un enquêteur de le faire, il l'a fait lui-même.
Tu collectionnes aussi des cartes postales, des photos en rapport avec les soucoupes volantes dans les fêtes foraines, les manèges et carrousels. Peux-tu nous en parler ? Est-ce que tu aurais des exemples surtout ?
Deux manèges, un carrousel à Blénimine. Blénimine, c'est un site d'une ancienne mine de charbon qui est visité, enfin qui est aménagé et qu'on peut visiter. Et donc il y a un certain nombre de manèges, enfin d'aménagements faits pour les gamins, des choses comme des trucs, ce qu'on appelle les piscines à boules, tu vois, des choses comme ça, quoi. Et un carrousel. Et dans le carrousel, il y a une soucoupe, la même que celle que dont tu as deux exemples à Sceaux et puis l'autre. L'autre, je ne sais, à Paris, de rue de Rivoli, et là, mais qui est encore décoré différemment. Voilà. Parce qu'en fait, la décoration, elle n'est pas automatique, tu vois. C'est pas un thème imposé. Donc, on peut le rendre personnalisé, quoi. Et les gens qui ont des manèges n'hésitent pas à faire. Parce que pendant un temps, au départ, c'était que le Big Deal. Tu vois ? Celui qu'il y a à Rivoli, là. C'était ça, c'était le personnage du Big Deal, je ne sais plus comment il s'appelait, là. Tu vois, le martien du Big Deal, là. Avec, je ne sais plus, le présentateur belge. Vincent...
Lagaffe,
voilà. Ouais, c'était le Big Deal, tu avais un extraterrestre. Voilà, c'était au début... Il y en avait un aussi, j'ai des photos, mais en argentique. T'en avais un à Thiers Belle Épine dans le centre commercial, c'était le Big Deal. Et tu regardes celui de Paris, rue de Rivoli, c'est le Big Deal. Mais celui de Sceaux, c'est un autre décor. Et celui de Blénimine, c'est encore un autre décor personnalisé. Mais il faut que je les compile, parce que, bon, comme je te disais hors antenne, comme dirait l'autre, j'en ai plein sous forme.
D'argentique.
Argentique, et voilà, faut que je les fasse numériser. Voilà, et sous forme de diapo en plus, alors c'est pas facile non plus. Voilà. Mais j'ai plein de matière, hein, c'est sûr.
Il y a un autre endroit où l'UFOPOP est très présente, c'est dans les jeux vidéo.
Ça peut se trouver autant dans les adaptations de films de science-fiction déjà existants qui influencent les jeux vidéo, puis il y a aussi des histoires originales. Inspiré par rien à part la création de la personne qui fait le jeu. Donc, oui, on en voit beaucoup, autant en action, science-fiction, horreur. Et puis, ça, c'est plaisant. J'ai déjà eu le plaisir de jouer à quelques jeux. J'aimais bien ça.
D'ailleurs, c'est quoi les jeux vidéo que tu as joué où il y a des aliens?
Je ne m'en souviens plus, mais la dernière fois que j'ai vu un jeu comme ça, c'est pas moi qui jouais, c'était un ami, et c'était des gens qui parcouraient un désert ou une ville désertique et qui, avec des fusils, tiraient sur des extraterrestres.
L'UFOPOP est présente dans la musique, que ce soit les pochettes de disques ou même les musiques. Hein. Il y en a beaucoup qui pensent en France à la musique de Ringo, Allô l'OVNI, là. Après, bon, il y a les musiques de films La Soupe aux Choux qui passaient d'ailleurs à Auxerre Galactic Day. Il y a aussi le rappeur Jules qui dit « Je m'appelle l'OVNI ». D'ailleurs, dernièrement, dans un magasin, j'ai vu son album où il y a un petit extraterrestre à vendre avec son album.
Et il y a même, si on remonte, moi, il y a une chanson qui m'a toujours surprise quand je l'ai entendue. Et c'est une chanson du groupe The Carpenters. Qui est très connu pour ses ballades et ses chansons très, très douces. Mais ils ont fait une chanson en 1977 qui s'intitule « Calling Occupants of Interplanetary Craft », qui est une chanson assez science-fiction et qui fait vraiment, on peut le dire, c'est un ovni dans leur discographie.
Il me semble aussi que l'artiste qui réalise certaines musiques pour ODFTV, Hybrid Boy, a réalisé une musique sur les ovnis.
Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une chanson qui est sortie en 2014 qui s'intitule UFO, mais c'est un acronyme différent qui veut signifier Unofficial Fantastic Odyssey.
Donc, ça signifie?
Un Odyssée fantastique non officiel. C'est particulier comme titre.
On a vraiment balayé toutes les formes, tous les types du faux-pop. Il y a encore bien d'autres choses à parler, bien sûr. Si vous êtes intéressé par les photos, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram d'ODHTV qui est consacré à l'UFOPOP.
Ben, en fait, je pense que c'est vraiment, je vais encore le répéter, c'est la place où personne ne peut se disputer entre eux. Donc, c'est la place où moi, je préfère demeurer dans l'ufologie. Je disais que j'étais moins dans l'ufologie. Mais ça reste que j'aime regarder tout ce que tu postes sur Instagram et tout ce qui est UFOPOP. C'est intéressant. Puis ça en dit beaucoup sur la culture de chacune. De chaque place où on sort la publication. Mm-hmm. C'est agréable, j'aime ça.
Oui, je confirme que l'UFOPOP, c'est un domaine très plaisant. Où on voit de jolies choses, où on rencontre de nouvelles personnes. Ça permet d'apprendre plein de choses et à savoir aussi, chères auditrices et auditeurs, personnellement, ça fait quelques mois que j'ai arrêté l'ufologie, mais pas ODHTV, puisque je me concentre sur l'UFOPOP. Je tiens à fortement remercier Gilles Durand du Sceau et Rémi Fauchereau du Sceau également et de la EPA d'être intervenus dans cette émission Enquête d'UFOPOP de terrain.
C'est avec plaisir, et puis on pourra en faire d'autres si tu veux, hein. Il n'y a aucun souci.
Ouais, le sujet m'intéresse bien, c'est moins toxique.
C'est moins toxique, voilà.
C'est ça.
Il peut y avoir des gens qui sont toxiques malgré tout, dans la preuve, on en a parlé. Voilà, oui, c'est moins toxique, et c'est plus ludique.
C'est ça.
Voilà. C'est de l'UFO ludique. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon allez, moi je coupe, à bientôt.
Bah, à bientôt,
au
merci.
Revoir. Au revoir.
Au revoir.
Allez, je coupe. Hop. Salut les gars.
Salut.
Salut. Il n'y a pas de quoi. Merci Gilles. Puis merci Jenny.
Merci Rémi.
Allez, au revoir.
Merci beaucoup aux invités d'avoir participé à cette émission.
Qui est aussi la dernière d'Enquête de terrain, puisque nous terminons cette émission.
Toutefois, vous allez nous retrouver sous un autre concept. Gilles, veux-tu en parler à nos auditeurs?
Oui, bien sûr. À partir de la rentrée, vous pourrez nous retrouver dans l'émission Enquête d'imaginaire, cette fois. L'imaginaire est tellement vaste, entre le fantastique, la fantasy, la dark fantasy, le folklore, la science-fiction, les légendes, le folklore, les traditions. Bref, il y a énormément de sujets à aborder. Je tiens tout de même à rappeler que ces émissions seront en lien avec la chaîne YouTube Zone Imaginaire que nous avons créée en 2021.
Ça va être très intéressant, puis ça va faire changement. Il va y avoir des sujets qui vont être abordés, qui sont rarement discutés au Québec.
Mais ne spoilons pas trop. En tout cas, vous pourrez nous retrouver dès la rentrée dans l'émission Enquête d'imaginaire.
Là-dessus, ben, j'espère que vous avez apprécié notre dernier épisode d'Enquête de terrain. Ce fut une belle aventure pendant toutes ces années-là hein, avec vous, mais ce n'est pas la fin.
Exactement, et comme dans toute histoire sans fin, il y a de nombreuses aventures. Et je tiens à remercier Carole Lozé et toute l'équipe de la Zone Insolite et la radio CJMD 96.9 Lévis-Québec de nous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre et donc une nouvelle aventure.
Merci beaucoup aux auditeurs présents pendant cet épisode. Samedi prochain, ce sera au tour d'APA Paranormal d'animer Zone Insolite. On vous souhaite un bon restant de fin de semaine et prenez bien soin de vous. À la prochaine. Au revoir.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.